Oui, donc je suis Ida Tesla, je suis metteur en scène. J'ai créé l'association Pipo. C'est hip-hop à l'envers pour ceux qui ne le verraient pas écrit. Donc c'est PIH-POH et on a eu l'idée avant le rappeur, je tiens à le dire. En fait, moi, c'est une critique que j'ai repris à mon compte. Donc c'était mes collègues dans une école d'art où j'étais qui considéraient que comme je travaillais avec des danseurs de hip-hop et que c'était pas une culture savante, je faisais un peu n'importe quoi. Donc je faisais du pipo. Donc j'ai découvert que c'était hip-hop à l'envers et j'ai décidé de reprendre la critique.
Et de jouer là-dessus. Vous venez justement nous parler de Pipo. Qu'est-ce que c'est exactement ? Est-ce que c'est une compagnie, mais pas que ?
Voilà, en fait, c'est une association. On essaye, à travers la création artistique, parce que c'est notre métier, de travailler en profondeur la société. Donc, on fait à la fois des créations professionnelles dans les théâtres, mais on fait aussi des chantiers participatifs de création dans les lieux de la vie quotidienne pour que la culture soit partout et puis aussi qu'on puisse travailler et permettre de s'exprimer, ou en tout cas... soutenir la création collective du plus de gens possible et notamment on a un attachement très fort au quartier populaire.
Vous décrivez vos actions comme une expérience artistique sur terre fertile. C'est assez atypique comme description. Qu'est-ce que ça signifie exactement ?
C'est un travail collectif qu'on a fait avec Arnaud Lantoine d'Ecopia qui nous a fait aboutir à cette définition parce que c'était important pour nous, notamment quand on travaille dans les quartiers populaires, de bien faire comprendre qu'on n'apporte pas aux gens la culture, puisque la culture, ils en sont déjà eux détenteurs. Donc c'est sur des terres fertiles qu'on travaille et puis plutôt que de proposer des objets tout faits, on propose vraiment des expériences.
Pipo, la compagnie, elle a été créée quand ? C'est vous qui l'avez créée déjà ?
Voilà, donc moi je l'ai créée en 2000, donc dans une école d'art qui s'appelle Le Frénois à Tourcoing, qui est une école internationale et où j'ai beaucoup appris parce qu'ils ont été précurseurs dans le mélange des disciplines, dans l'hybridation entre cinéma, art plastique, spectacle vivant, etc.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de monter une compagnie comme ça ?
Alors moi, j'ai eu la chance de baigner, grâce à mes parents, dans un milieu artistique depuis toujours. Et en même temps, comme eux n'exerçaient pas un métier artistique, je pensais que je n'avais pas le droit non plus, que j'allais me retrouver plutôt du côté administratif. Et puis, j'ai tenté le concours de cette école qui me paraissait complètement inaccessible. Et en fait, ils m'ont prise. Et une fois que j'étais là, la question ne se posait plus puisque j'étais là pour créer. Donc, j'ai créé. Et puis, j'ai rencontré des danseurs de hip-hop à Roubaix, dans la ville où j'habitais, où j'avais passé mon adolescence. Et ça a été un deuxième déclic parce qu'en fait, j'ai rencontré des gens qui, eux, créaient à partir de choses qu'ils n'avaient pas héritées de leurs parents. Et qui, en plus, alors qu'ils étaient plutôt marginalisés dans la société, se répandaient dans le monde entier et dans tous les milieux sociaux. Et j'ai trouvé ça assez magnifique. Et c'est un peu eux qui m'ont autorisé à créer aussi.
Et à créer, et ça a marché, parce que ça fait plus de 15 ans que la compagnie Pipo, elle existe aujourd'hui. Il y a eu des évolutions, des grosses évolutions notamment
ça a beaucoup évolué. En même temps, ce qui est très intéressant quand on peut suivre le travail sur 15 ans, c'est voir la continuité en fait, dans tout ça. Et ça prend de multiples formes et des choses complètement inattendues, bien sûr. Et en même temps, je crois qu'on est resté... fidèle aux enjeux de départ qui étaient vraiment que la création artistique renforce le lien entre les gens qui ne se rencontrent pas autrement que par la création artistique. Parce que moi, c'est comme ça que j'ai rencontré les danseurs de hip-hop. Alors qu'on fréquentait les mêmes établissements scolaires, on aurait pu normalement se croiser dans la rue, on aurait pu se rencontrer n'importe où. Et en fait, on s'est seulement rencontrés à travers la création artistique.
Aujourd'hui, vous êtes combien au sein de l'association ?
Alors, on a une vingtaine de bénévoles et puis une dizaine de salariés, évidemment à temps partiel, parce qu'on a des grandes difficultés, comme beaucoup d'associations, à maintenir un emploi permanent. On l'a connu par le passé. Ça a été très, très utile à l'association. Aujourd'hui, c'est compliqué. Donc, on travaille aussi beaucoup avec des artistes vidéastes ou bien paysagistes qui sont indépendants. Voilà.
Mais du coup, c'est pas votre activité principale ?
Alors, à moi,
À vous et aux autres
Alors voilà, ça dépend. Moi, c'est mon activité principale, mais je travaille également pour d'autres structures. Et ça dépend en fait des personnes. Il y a des personnes pour qui c'est une toute petite activité, mais il y a Meryl Sétier, la paysagiste, qui est devenue aussi une personne très importante pour Pipo, parce que finalement, on développe des projets ensemble maintenant depuis 2010. On a commencé au Rif du Cher, aujourd'hui on est ensemble au Sanitas. Et on va s'aimer à Amboise et dans l'agglo d'Orléans.
Vous, votre rôle au sein de Pipo, vu que vous êtes metteur en scène, c'est quoi? Vous montez les spectacles, vous...
Alors moi, j'aime bien ce terme de metteur en scène parce que ça veut rien dire, en fait. C'est maître, ça veut tout dire en français. Et une scène, ça peut être absolument n'importe quoi. Donc, c'est un peu ça, mon travail. Mettre en scène, ça peut être aussi mettre en scène un espace public. Ça peut être écrire un projet, voilà. Donc j'ai pas mal de casquettes, même si j'ai beaucoup, voilà, je suis loin d'être seule, on travaille collectivement. Mais c'est vrai que ça, dans le milieu associatif, on est rapidement polyvalent. Je crois que vous voyez de quoi je parle, Radio Campus.
Je vois, vous êtes aussi membre de plusieurs collectifs comme Passons-nous et La Grande Régie. Ça fait longtemps, on peut en savoir un peu plus sur ces collectifs?
Oui, alors ça c'est assez récent et c'est très très important pour nous. Donc c'est deux collectifs extrêmement différents. La Grande Régie, c'est un collectif de 6 compagnies à Tours qui seront peut-être bientôt 8, puisqu'il y a 2 compagnies qui sont en phase d'adhésion. Et on s'est regroupés depuis plus de 2 ans et on fait tout un travail ensemble pour s'entraider, être porte-voix sur les questions de politique publique qui nous semblent le mériter. Et on va accueillir, par exemple, normalement très bientôt, l'AG national du CINAVI, qui est le syndicat des arts vivants. Ça veut dire qu'on accueillerait des compagnies de théâtre de toute la France. Donc c'est un travail très riche d'être ensemble à Tours et aussi d'espérer qu'on puisse répéter, travailler et jouer nos spectacles à Tours. Parce que dans l'agglo, il y a encore des endroits comme La Riche, comme l'Espace Marot, à jouer les tours, voilà, qui sont ouverts aux compagnies locales. Et on a besoin qu'à Tours aussi, on ait des lieux de travail, c'est important pour nous.
Et passons-nous ?
Alors, la coordination nationale Passons-nous, c'est une expérience extraordinaire. Donc, c'est Mohamed Mechmash et Marilène Baquet. Donc, Mohamed Mechmash, qui est connu parce qu'il a été président d'Assez le Feu. Donc Assez le Feu, c'est quand même des gens qui ont dit après les révoltes urbaines de 2005, on va ramener les gens vers l'expression citoyenne parce que ce qu'ils ont fait, ça exprime un besoin de revendiquer. Simplement, s'ils revendiquent par la violence, en fait, l'État sera toujours plus violent qu'eux. Et il faut essayer de revendiquer de façon démocratique et efficace aussi. Et voilà, donc c'est un homme d'un grand courage et il s'est mis à travailler avec Marilène Baquet, qui est une sociologue assez exceptionnelle aussi, qui essaye de développer l'empowerment, c'est-à-dire le pouvoir d'agir, mais à la française, parce que c'est un concept américain et on sait bien que nous, on est dans un contexte extrêmement différent. Et donc François Lamy, qui était ministre de la Ville, donc au départ hein, de la présidence Hollande, leur a demandé un rapport sur la participation des habitants à la politique de la ville. Donc la politique de la ville, ça régit à peu près toute la vie dans les quartiers populaires parce que c'est une politique transversale, ça concerne la santé, l'éducation, enfin tous les secteurs. Donc ils ont fait un tour de France et ils ont remis un rapport et pour remettre ce rapport, ils ont dit on va faire une conférence citoyenne où on va demander à 100 citoyens absolument lambda de donner leur avis. Et donc nous, on a postulé, on a été plusieurs, parce qu'il y a la compagnie L'Arc Électrique, il y a aussi l'écrivain public de l'association Pluriel, enfin il y a plusieurs acteurs locaux qui montrent qu'on est très dynamique quand même en région centre, qui ont postulé. On a tous fait partie de cette conférence et à l'issue de ça, ils ont dit, bon, ce rapport sur la politique de la ville, donc que je vous invite à lire, hein, qu'on trouve très facilement en ligne, qui s'appelle « Pour une réforme radicale de la politique de la ville ». Et j'en profite pour dire que Mohamed et Marilène vont faire une conférence lundi 30 janvier de 14h à 17h à l'université, des Tanneurs. Et donc ça vaut vraiment le coup de venir les voir parce qu'ils ont une vision de la France extrêmement optimiste et qui concerne pas toujours qui ressemble pas toujours à ce qu'on entend dans le discours commun et qui à mon avis est très très riche et des propositions super riches. Voilà, donc il a été décidé de créer une asso pour défendre les propositions de ce rapport et voilà, et nous c'est vrai qu'en tant que Pipo ça nous a paru évident de poursuivre ce travail. En lien avec tous ces chantiers qu'on créait dans les quartiers populaires de l'agglo.
On va maintenant parler un peu plus de ce que vous faites concrètement au sein de Pipo. Alors, dans un premier temps, il y a les chantiers participatifs. On en a un petit peu parlé déjà. Qu'est-ce que c'est exactement un chantier participatif ?
Alors, c'est quelque chose qui s'est créé un peu sur le tas. En fait, on a fait une rencontre importante qui est celle de Marie-Lise Aubry au service de cohésion sociale de la mairie de Tours. C'était quand même en 2007 et ça nous a mené à un travail sur ce quartier où on était intégrés donc comme créateurs dans notre travail artistique, mais vraiment dans toutes les réflexions que menait la ville sur la vie dans ce quartier. Et du coup, c'est devenu beaucoup plus intéressant que de travailler avec des groupes. On fait un atelier théâtre, on fait un atelier art plastique avec un petit groupe. Là, c'était vraiment travailler à l'échelle du quartier sur son paysage, sur le vécu des gens. On a travaillé aussi au fil des années parce que du coup, ça s'est élargi dans le temps. On a travaillé également sur l'histoire de ce quartier. On a pu travailler avec le festival Rayon Frais où des gens du centre-ville sont venus visiter les rives du Cher. Enfin voilà, on a pu développer tout ça et ça nous a permis de développer des méthodes de travail. Et ce qui a été très important aussi, c'est la rencontre avec Meryl Sétier qui est paysagiste, qui a évidemment élargi nos compétences. Ce n'était pas des compétences qu'on avait au départ. Et ça, ça a beaucoup aussi intéressé les gens qui ont tous soif de jardiner, de connaître leur environnement, qui souvent connaissent très bien les espèces qui vivent à côté d'eux, même au Sanitas, qui ne paraît pas un quartier spécialement vert. On se rend compte que quand on parle de prendre des photos, les gens disent moi je veux que vous me preniez à côté, là je sais qu'il y a un bananier, là je sais qu'il y a telle plante, etc. Et ça c'est très important dans ces quartiers-là qu'on regarde toujours comme des quartiers de béton, alors que c'est des quartiers au contraire beaucoup plus riches que ça et où il y a parfois un travail d'espace vert très intéressant qui est fait. Donc les chantiers participatifs dans les lieux de la vie quotidienne, c'est vraiment arriver, on appelle ça nous les mains pleines, les mains vides par exemple, ça fait partie de nos méthodes de travail, c'est-à-dire pas arriver sans rien parce qu'on est riche de nos compétences, mais on n'arrive pas avec des stands, on n'arrive pas avec des ateliers, il y a rien à faire en fait. Et on démarre sur la rencontre et on démarre sur quelque chose que les travailleurs sociaux connaissent très bien et qui nous ont beaucoup appris d'ailleurs, parce que c'est aussi une façon de rencontrer par exemple les éducateurs de prévention qui travaillent dans la rue, enfin de traverser tous les champs professionnels et d'apprendre mutuellement. Et donc on commence par l'écoute. On commence par l'écoute du lieu, par le regarder, par écouter les gens qu'ils fréquentent, par discuter avec eux et on essaye d'élaborer ensemble un regard collectif. Donc ça peut prendre la forme théâtrale, la forme de photo, la forme de jardiner ensemble, la forme d'écrire, de raconter. Enfin voilà, après ça prend la forme dont les gens ont envie et besoin.
Et il y en a un qui vient de se terminer là tout récemment.
C'est ça, donc c'est en fait il y a 2 ans on a commencé à retravailler au Sanitas parce qu'on y avait travaillé mais plus sous forme d'atelier grâce à la réussite éducative. Là on pouvait y travailler grâce à une bourse du ministère de la ville en faveur de la participation des habitants de façon plus forte. Et donc on a travaillé avec le centre social Pluriel, avec Artefact, avec énormément de structures du quartier. Et puis on a proposé The Go-Between. Alors Go-Between c'est un mot anglais, alors il y a des gens que ça énerve. Mais ça veut dire messager, ça veut dire intermédiaire, ça veut dire courroie de transmission. Et ça a permis de réaliser notamment une exposition de 200 photos, un film sur les gardiens d'immeubles. Voilà, et c'est énorme. Là, dernièrement, portrait textile avec des créations textiles fabriquées au Sanitas avec Violette Antini, qui est aussi à Artefact, qui fait partie de la coopérative d'Artefact. Je parle d'Artefact parce qu'ils sont dans la pépinière du Sanitas. Et donc, l'envie aussi de Malvina Balm, qui travaille pour Artefact sur le quartier du Sanitas, c'est vraiment que tous les talents qui sont dans la coopérative se mettent aussi au service des habitants du Sanitas. Et nous, on a aussi bénéficié de l'expérience d'autres associations et de l'idée de Marie-Lise Aubry de s'emparer de la Galerie Neuve, qui est un petit lieu d'art d'exposition, mais pour y fabriquer des choses avec les habitants du Sanitas. Donc la Galerie Neuve devient pendant plusieurs périodes dans l'année comme un Fab Lab, en fait un tiers-lieu où tout le monde peut venir travailler, à réfléchir ensemble, à créer ensemble.
Mais c'est ça qui est important, c'est ouvert à tout le monde.
On a des gens de 4 ans à 85 ans, et voilà, c'est ce qu'on cultive, et ça se passe extrêmement bien, c'est toujours intergénérationnel. On travaille beaucoup sur les préjugés et contre les discriminations, parce qu'on se rend compte qu'en fait, c'est même pas des personnes qui sont racistes, c'est l'air du temps. En fait, c'est l'histoire aussi de France qui a créé ces préjugés. Et si on ne travaille pas dessus, en fait, les gens des quartiers populaires sont souvent en butte au même regard, aux mêmes réflexions. Et ça, c'est très important de travailler là-dessus parce que ça doit changer, quoi. Il faut que ces gens soient regardés comme français.
Ouais, c'est super important.
Pour ceux qu'ils sont. Et puis étrangers important. Pour ceux qui ne sont pas français, mais étrangers comme on a le bonheur d'accueillir un étranger et pas étranger, donc dangereux. Donc voilà.
Évidemment, vous ne faites pas que des chantiers participatifs au sein de la compagnie Pipo, il y a des ateliers.
Voilà, alors on fait aussi des ateliers de tous les styles, même si ceux qu'on préfère, c'est ceux qui mélangent les disciplines artistiques. Et on a la chance de beaucoup travailler dans le quartier de la Rabière, notamment au centre social de la Rabière, et également avec l'association Résoud, là depuis 2 ans, on développe un atelier théâtre dans le cadre du français langue étrangère. Donc pour des gens souvent qui viennent d'arriver en France, ou qui vivent en France mais n'ont pas eu l'occasion de vraiment bien parler français. Et donc avec le théâtre, on essaye de les aider à s'approprier cette langue. Et surtout, moi, ce que j'essaye de faire, c'est qu'ils se retrouvent eux-mêmes dans cette langue. Qu'ils arrivent à se retrouver une personnalité, mais avec les mots du français, quoi.
Et en plein dans l'actualité, pour la compagnie Pipo, il y a le spectacle sur la corde raide. Alors, ah, qu'est-ce que c'est exactement ce spectacle ?
Ben, j'étais très contente d'entendre Mathéo interviewer son grand-père. Parce que sur la corde raide, c'est un texte de Mike Kenny. C'est une très belle pièce. Donc, c'est Esmé qui est une petite fille qui vient en train toute seule en vacances chez ses grands-parents, comme tous les ans à la fin de l'été. Plus ses grands-parents habitent au bord de la mer. Donc, c'est beaucoup de chance. Et puis, cette année-là, donc Stan, son grand-père, vient la chercher. Et elle arrive à la maison et elle cherche Mamie Queenie. Mais Mamie Queenie n'est pas là. Donc elle va questionner son grand-père, puis en même temps ils vont continuer leurs vacances, donc ils vont aller au bord de la mer, ils vont aller à la fête foraine, voilà. Et puis elle va être à la recherche de cette grand-mère, et puis à un moment le grand-père va lui dire qu'en fait elle est partie rallier le cirque Mamie Queenie. Voilà, parce qu'elle avait toujours voulu être funambule, d'où la corde raide. Donc c'est le spectacle, évidemment, dont je ne vais pas vous raconter la suite, qu'on va jouer à l'Espace Malraux. La première c'est mercredi prochain à 15h. Et c'est avec Charlotte Gosselin et Philippe Fauconnier, pour ceux qui les connaissent, parce qu'ils sont assez connus dans la région.
C'est un projet de longue date. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur le projet avec Pipo ?
Alors, nous, ça fait 3 ans qu'on travaille dessus. Les comédiens, ça fait 2 ans. Et ça est vraiment devenu concret depuis 2 ans aussi, parce que Pascal David, l'Espace Malraux, donc la programmatiste jeune public, s'est investie dans ce projet et a décidé de le soutenir. Et c'est vrai que l'Espace Malraux, pour ça, joue un rôle très important dans l'agglomération, notamment en jeune public, je pense. Et j'espère qu'elle va continuer à jouer ce rôle d'accompagnement des artistes locaux, parce qu'il y en a besoin.
Ouais, parce que la première, c'est mercredi 18, mais vous avez fait pas mal de résidences, en fait, depuis longtemps déjà. La première, c'était il y a 2 ans.
Voilà, il y a 2 ans, on a eu de la chance, on a travaillé à la MJC de Joël et tout, on a travaillé à l'Espace Malraux, on a travaillé ensuite à Vaugarny, donc à la Grange Théâtre, et on a été accueillis également au Théâtre Beaumarchais d'Amboise, et puis à la Pléiade à la Riche, donc, et puis à nouveau à Malraux pour les dernières finitions. Donc ça, c'était très agréable aussi de pouvoir travailler dans tous ces lieux, d'être accueilli aussi par toutes ces équipes.
C'est important aussi pour vous, les pièces de théâtre. Vous en avez joué combien avec la compagnie, vous savez ?
Alors, Pipo n'a jamais monté de pièces de théâtre, c'est la première.
C'est la première montée.
Tous les spectacles qu'on a fait, c'était... Alors, il y a eu Parking de François Bon, texte fondateur qui n'est pas édité comme texte de théâtre, même si c'est un monologue. Après, on a monté un texte de Paul Éluard, qui est un long poème... Mais c'est un poème, même si c'est très très long, c'est un poème. Voilà, et puis on a adapté aussi des récits, on a travaillé sur Histoire de Mokrane, qui a été jouée notamment à l'Espace Malraux. Donc beaucoup, beaucoup de textes, mais jamais de textes de théâtre.
Oui, qui ne sont pas catégorisés comme textes de théâtre, mais qui au final qui se prêtent complètement à l'exercice. Ouais. Il se plaide complètement à l'exercice et il sera rejoué, parce qu'on l'a dit, la première c'est mercredi.
Oui, alors la première c'est mercredi, le jeudi on joue mais c'est pour les scolaires, donc on va accueillir des écoles et puis aussi des collégiens. Et puis ensuite on va partir en tournée au Théâtre de la Tête Noire à Saran la semaine d'après, donc ça c'est très agréable. Et puis on va pouvoir jouer à Vierzon dans cette belle salle du MacNab au mois de mars.
Eh bah, voilà. Je suis pas sûr que les auditeurs viendront jusqu'à Vierzon, mais pour l'Espace Malraux, en tout cas, c'est la semaine prochaine. Les tarifs,
vous voulez... Je n'en ai absolument aucune idée. Oui. Par contre, on peut venir, je crois que j'ai mis de 6 à 120 ans.
De 6 à 120 ans. Ça fait assez large.
Ouais, pour les étudiants, ils tombent pile au milieu, c'est très bien.
Je pense que les étudiants tombent au milieu. Eh bah, ben, moi, je vais vous remercier, Ida, d'être venue ce soir. Merci. Dans Sortez pour nous présenter la compagnie Pipo.